Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Libre penseuse, militante et féministe, ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, Eva Circé-Côté.
Il y a dans leur âme une sorte de lumière intérieure, comme des lumières d'aurore qui jettent sur les choses des clartés anticipées. L'instinct des femmes est plus près que nous de la nature et plus raisonnable que notre jugeote boiteuse. La femme moderne doit racheter l'humanité qui agonise sous un joug de fer. Le sort de l'univers est entre ses mains.
Extrait d'une chronique d'Eva Circé-Côté, lue par le journaliste Jean-François Nadeau, c'était à notre radio en mai 2010. Elle a publié plus de 1800 textes, tout en fondant la première bibliothèque publique de Montréal. Libre penseuse, elle milite pour l'éducation obligatoire et l'avancement de la condition féminine. Farouchement opposée à la mainmise de l'Église, elle dénonce le puritanisme, l'obscurantisme et la corruption. Eva Circé-Côté, c'est aussi plusieurs pseudonymes. Colombine, Julien Saint-Michel, Fantasio, des sobriquets qui lui permettent de se faire tour à tour critique littéraire, conteuse, journaliste ou pédagogue.
Il faut une instruction solide. Non pas seulement parce que ce sont, tout comme les hommes, des êtres de chair et de sang qui ont droit au même savoir, mais surtout parce qu'elles sont appelées, plus que jamais, à gagner leur vie, celle de leurs parents et celle de leurs enfants.
Si elle va sur ses côtés.
Non, pas encore. Je signe Arthur Maheu. Il faut assainir la politique. On ne peut exiger du peuple une délicatesse de conscience si la classe dirigeante l'ignore. Il faut retirer le crucifix des cours de justice. On doit rendre l'éducation non seulement gratuite, mais obligatoire et laïque. Je rêve d'un pays.
Je rêve d'un pays.
Moderne.
Contre le pouvoir religieux.
Un pays qui s'opposerait aux tenants de la pureté de la race.
Un pays qui dénoncerait l'antisémitisme.
Un résumé de la pensée d'Eva Circé-Côté dans une projection vidéo lors de l'inauguration de Cité Mémoire en 2016, installation de Michel Lemieux et Victor Pilon, c'est dans le Vieux-Montréal. Ah, pour nous parler d'Eva Circé-Côté, mon invité, André Lévesque, historienne, auteur d'ailleurs de deux ouvrages sur Eva Circé-Côté, c'est publié aux éditions Remue-Ménage, elle est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Je lisais sa feuille de route, vraiment exceptionnelle à tous égards. Très impressionnante. Comment ça se fait qu'on la connaisse si peu?
C'est étonnant, n'est-ce pas,
oui.
Pour quelqu'un qui a tellement fait parler d'elle à une certaine époque. Il y a plusieurs raisons. La première raison, la plus facile, c'est qu'elle a écrit sous des pseudonymes, comme on le faisait beaucoup à l'époque, mais à un certain moment, elle s'est vraiment cachée sous ses pseudonymes, donc il faut fouiller pour trouver ses écrits. Mm-hmm. Mais elle aurait pu quand même être dans les livres de critique littéraire du Histoire littéraire du Québec ou des choses comme ça, puis elle est presque absente. Et je crois que c'est à cause de ses idées qui allaient à l'encontre de ce qu'on enseignait à l'époque. Elle était toujours en porte-à-faux avec sa société. Elle a été un objet de scandale à une certaine époque. Et je crois que c'est toutes ces raisons-là qui font qu'elle a été occultée.
Oui. Oublié, carrément. Même si les idées qu'elle défend sont très, très, très modernes. Ah, c'est qui, Eva Circé-Côté? Elle vient d'où?
Elle est née à Montréal. Elle a été élevée dans le quartier Saint-Cunégonde, Saint-Henri aujourd'hui. Mm-hmm. Son père était marchand. Sa mère, restait à la maison. Ils ont eu 12 enfants, mais qui sont presque tous morts en bas âge.
Plus tard, ou en bas âge.
Ouais. Elle a eu de la chance de pouvoir faire des études jusqu'à l'âge de 17 ans, ce qui est beaucoup plus que la moyenne des femmes à son époque. Elle était de toute évidence douée parce qu'elle a eu des prix, médailles, etc. Mm-hmm. Elle faisait de la musique, puis elle était poète. On a des traces écrites à partir de 1900 quand elle envoie un poème à Louvigny de Montigny au journal Les Débats. Il va la repêcher, puis il va lui demander de collaborer au journal. Et c'est là qu'elle commence sa carrière journalistique, si vous voulez, mais aussi de poète. Et tout va comme débouler en 1903. Mm-hmm. 1903, c'est une année très importante dans sa vie. D'abord, elle s'est fait connaître en 3 ans. On la nomme première bibliothécaire de la Bibliothèque de la Ville de Montréal, bibliothécaire et conservatrice. En 1903, elle va faire jouer sa première pièce. Et ensuite, elle va fonder un journal qui ne durera pas longtemps, là, l'Étincelle, en plus de collaborer à tous les autres journaux. Donc, c'est une date charnière, 1903, oui. Dans sa vie.
Mais comment elle arrive à se tailler une place dans le monde littéraire, qui est un monde d'hommes à l'époque, là?
Absolument. D'ailleurs, elle est exclue des chapelles littéraires, que ce soit l'École littéraire de Montréal. Elle les connaît tous, mais elle ne peut pas aller à leurs réunions, etc. Elle était progressiste au sens de l'époque. Elle était anticléricale et elle épouse en 1905 un jeune médecin avec les mêmes idées, qui est près de la loge franc-maçonne. Et tous les deux fréquentent des francs-maçons. Elle dit qu'elle est autodidacte. En fait, elle est allée à l'école jusqu'à 17 ans, mais elle a tout lu. Elle a lu les Grecs, les philosophes de toutes les époques. Sur la scène politique, si vous voulez, elle s'identifie aux libéraux progressistes, c'est-à-dire aux libéraux. C'est une libérale,
oui.
Mais pas dans le Parti libéral.
Non, bien sûr. Mais j'en reviens à son mari, parce que, bon, c'est quand même important. C'est celui qu'on surnomme, on l'a surnommé le médecin des pauvres. Il va mourir prématurément. Et là, il se retrouve dans un scandale. C'est ça qui l'a fait connaître un peu.
Aussi. Ça lui a donné une notoriété, si ouais. Vous voulez, en a fait un objet de scandale. D'abord, les francs-maçons étaient des gens très d'avant-garde à l'époque. Un signe, c'est que quand il mourait, il voulait se faire incinérer. Et il a demandé ça dans ses dernières volontés, et il a aussi demandé de ne pas avoir de funérailles religieuses.
Mm-hmm.
Comme c'était ses dernières volontés, elle l'a fait. Il y a eu foule qui suivait le cortège, parce qu'à l'époque, hein, on marchait jusqu'au cimetière. Et là, on voit tout ce qui est centre-gauche de Montréal est là. Et ça, ça fait scandale. Dans les journaux, là, on l'a appelé tous les noms. Les membres de la famille, de sa famille à lui, se sont mêlés. On a dit que lui, c'était pas ses dernières volontés. C'est elle qui l'avait imposé. Et c'est là qu'elle a eu une chance inouïe. Un autre franc-maçon, Godefroy Langlois, a commencé un journal. En même temps que Le Devoir, la même semaine, au mois de janvier 1911... Et elle vient juste de perdre son mari, il est allé la chercher, là.
Et c'est par les journaux qu'elle a défendu son mari à ce moment-là.
Absolument. Ouais. Alors, elle a écrit une lettre aux journaux qui a été publiée, mais comme elle avait une, entre guillemets, une réputation, elle a abandonné, ou presque, ses premiers pseudonymes et s'est inventé d'autres pseudonymes dans le journal de Godefroy Langlois et quelques années plus tard, dans Le Monde ouvrier. Et c'est là qu'elle a changé, elle est tombée dans l'anonymat en adoptant d'autres pseudonymes pour pas qu'on la reconnaisse.
Oui, parce qu'il faut le dire, les journaux à l'époque, hein, bon, sont très marqués politiquement, souvent associés à un parti. On va écouter à ce sujet les propos de Roger Duhamel et son portrait du journalisme au début du siècle. C'était à notre radio, beaucoup plus tard, bien sûr, en février 1968.
Autrefois, on achetait un journal parce qu'il représentait, sans nuance aucune et avec une infaillibilité quasi pontificale, les vues du chef et des lieutenants du parti. C'est une forme, vous l'avouerez, d'infantilisme intellectuel.
Mais vous savez, il y a toujours eu, il y aura toujours des journaux engagés politiquement, d'autres religieusement, et des journaux totalement indépendants.
Un petit peu, un petit peu. C'est peut-être pour cela qu'autrefois, il n'y avait plus de journalistes très connus. Eux s'engageaient dans des luttes politiques.
De très grands journalistes, comme nous n'en avons plus peut-être, c'est que, à cette époque-là, je dirais qu'il y avait un fossé à peu près infranchissable entre quelques prima donna, entre quelques vedettes, je pense notamment à Jules Fournier, à Olivier Asselin, et même, sur un autre plan, car il est engagé en politique également, je pense à Henri Bourassa.
Henri Bourassa, fondateur du Devoir, hein, Le Devoir dont elle va d'ailleurs se moquer. Pourquoi?
Henri Bourassa, c'est aussi un peu sa bête noire, hein? Elle va s'en moquer, elle va se moquer de son catholicisme, de l'ultramontanisme de Bourassa, en fait. Et dans Le Devoir, on ne l'aménage pas non plus quand son mari meurt. Et ça va continuer. Le Devoir est très près de l'Église, hein?
Oui, c'est ça. Hein? C'est un journal catholique, là.
Très catholique.
Oui.
Elle n'écrit pas dans Le Devoir, c'est sûr.
Non, ben, la preuve, c'est qu'elle s'en moque. Parce que vous l'avez dit, bon, à partir de ses premiers écrits, premier poème autour de 1900, ses écrits deviennent beaucoup plus politiques à partir de 1903. Elle se met à écrire dans des journaux à ce moment-là, sous plusieurs pseudonymes. Vous dites, les pseudonymes, c'était courant à l'époque parce que c'était une femme?
Non.
Non?
L'abbé Groux avait des pseudonymes. Il faisait même les comptes rendus de son livre sous un autre nom. Non, il y avait les hommes aussi. Mais pour elle, ça l'a bien servi parce qu'on croyait que c'était un homme, donc elle pouvait s'exprimer sur tous les sujets. Je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais elle n'a jamais eu la page féminine dans un journal. C'est une des rares femmes qui faisait la une, qui s'exprimait sur l'actualité, la politique, comme un homme, et on croyait que c'était un homme. Et d'ailleurs, moi aussi, je l'ai cru. Quand je faisais de la recherche dans le monde ouvrier et que j'ai vu Julien Saint-Michel, j'étais convaincue que c'était un homme.
Ah oui? Alors que c'était elle?
Dans un de mes livres, je l'ai même cité comme un homme très éclairé. Mais avant ça, dans le pays, le journal de Godefroy Langlois, il a commencé sous le nom de Fantasio, ensuite Jean Né, Jean Barre. Ensuite, elle s'est créée un personnage, un hétéronyme à Arthur Maheu. Alors lui, contrairement aux autres, lui, on sait que c'est un habitant qui vit à Montréal, qui a une femme et qui passe des commentaires sur la ville. C'est le gros bon sens.
C'est ce qu'elle incarne à ce moment-là, ben, en tout cas, quand elle écrit avec ce pseudonyme. Hein. Ben, parlons des idées qu'elle défend, parce qu'elle touche à tout, hein, vraiment, quand on parle de cris politiques. Mais ça va, bon, il y a la corruption, il y a l'immigration, il y a l'avancement, la condition féminine, bien sûr. Militante, de gauche, libérale, comment on peut définir sa pensée? Elle se réclame de qui ou de quoi?
Elle s'est dite libre penseuse.
Oui.
C'est vaste.
Oui.
Elle se dit libérale, mais pas du tout comme le Parti libéral. Elle est très critique du Parti libéral. Alors, son inspiration, son mentor, c'est Louis-Joseph Papineau. Alors, si on veut la comprendre, en fait, il faut revenir à ce que c'est que le libéralisme. Et c'est le libéralisme des Lumières du 18e siècle, en fait.
Oui.
C'est le progrès. Elle croit au progrès. C'est tout le contraire du conservatisme, évidemment. Il s'appelle progressiste, parce que les progressistes, c'est pour la réforme sociale, réforme morale, mais aussi réforme de l'hygiène publique, par exemple.
Mm-hmm. Oui.
Alors, elle traite de tous ces sujets-là. Puis, d'autres choses, par exemple, elle est contre la peine de mort. Elle est contre les punitions corporelles aux enfants.
Ce qui est étonnant, quand même, pour l'époque. Là.
Ah ben oui, hein? Oui. Contre le travail des enfants. Et si on regarde son féminisme, qui commence, oui, au début du siècle, elle donne des conférences sur l'éducation des femmes qu'elle publie dans son premier livre en 1903. Et après, elle en vient à défendre toutes les causes féministes, le vote des femmes, etc., l'entrée dans les professions.
Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle dit, justement, sur les femmes? Parce que c'est vraiment probablement le thème qui lui est le plus cher, hein, c'est l'avancement de la condition féminine. Qu'est-ce qu'elle réclame pour les femmes?
Elle accorde aux femmes, surtout au début de sa carrière, des vertus particulières. C'est elles qui vont faire le ménage dans la société. Elles vont éliminer la corruption que les hommes ont créée, bien sûr. Mm-hmm. Mais en même temps, elle est pour l'égalité des femmes. Pendant la Première Guerre, elle va demander salaire égal.
Ce qui est
très
pendant
tôt.
La Première Guerre?
C'est très tôt, oui.
Oui, audacieux. Oui.
Ouais. Mais là, je pars sur une tangente, mais aussi pendant la Première Guerre, elle va avoir un éditorial sur les gays.
Ah oui? Oui.
Il y a deux hommes qui se font prendre au Parc La Fontaine ou je ne sais pas où, et elle va dire « c'est pas du tout les arguments qu'on aurait aujourd'hui. Mmh. » Mais rappelez-vous qu'à l'époque, ils méritaient le fouet. Alors elle va dire « non, 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 laissons-le tranquille, c'est pas de leur faute. » Et ça aussi, c'est le libéralisme. On tolère. Elle s'insurge contre l'antisémitisme très, très tôt.
On va y revenir à ça, mais d'abord sur l'égalité homme-femme, hein, parce que c'est vraiment le thème majeur. L'égalité, elle dit quoi sur le droit de vote, par exemple?
Alors, elle réfute les arguments d'Henri Bourassa. Quand je vous ai dit qu'Henri Bourassa était sa bête noire,
oui.
C'est en bonne partie pour ses positions contre le divorce, contre le vote féminin, pour la place des femmes à la maison, etc. Il était très conservateur. Et elle va les réfuter un par un. Elle dit, on va dire que les femmes vont aller annuler le vote de leur mari.
Mm-hmm.
Elle dit, bon, ben, ça pourrait être le contraire. On va dire qu'il y a trop de violence, disons, sur la place publique. Ben, en fait, c'est les hommes qui le font. On va dire que les femmes ne sont pas assez instruites. Ben, elle dit, regardez, à l'Assemblée législative, il y a plein de députés qui ne savent pas lire et écrire. Enfin, elle exagère, d'accord.
Oui, 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 oui.
Mais pour elle, c'est droits égaux pour tous.
Mm-hmm. Donc, l'égalité qui doit, oui, en principe, mener au droit de vote, ça va de soi. Mais même si ça a été long, on le sait, hein, très, très long au Québec, on va écouter le sujet de la militante bien connue, Thérèse Casgrain, c'était en 1963, à notre radio, sur cette question.
Évidemment, il y avait une chose essentielle, c'était d'obtenir pour les femmes de la province de Québec leur droit de suffrage. Elles votaient déjà au fédéral depuis 1918, mais elles n'avaient pas un mot à dire dans les élections provinciales. Et la dernière province qui avait accordé le droit de vote aux femmes était la Nouvelle-Écosse en 1922. Et nous, dans le Québec, nous l'avons obtenue en 1940. Alors, il a fallu batailler ferme. Nous sommes allés, je crois que c'est 15 fois à Québec, faire présenter des projets de loi avant de vraiment obtenir le droit de vote et l'éligibilité pour les femmes.
Et sous quel prétexte ou pour quelle raison cette opposition?
D'abord, il y avait toujours les mêmes vieilles rengaines, c'est que d'abord, nous allions ruiner nos foyers. Nous ne les ruinions pas au fédéral, mais au provincial, évidemment, ça avait un autre aspect. Ça venait un peu partout, ça venait même, malheureusement, certains dirigeants spirituels considéraient que c'était extrêmement dangereux pour les femmes. Nous avons eu beaucoup de difficultés.
Oui, le clergé qu'elle a combattu dans ses écrits et qu'elle a dénoncé à maintes reprises. Elle a été de tous les combats, puis on pourrait tous les énumérer. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais parmi eux, des débats très actuels, puis vous l'avez évoqué brièvement, l'immigration et l'antisémitisme. Qu'est-ce qui l'interpellait dans la question juive, par exemple? Parce qu'elle en parle souvent de ça.
Oui, pour être une question de justice. La première fois qu'elle a confronté l'abbé Groulx, c'est au sujet de l'ACJC, l'Association pour la jeunesse canadienne française, catholique, et à cause de leur antisémitisme. Et elle s'en est déjà pris aussi à la CSM, qui s'appelait la CTCC, là, les syndicats catholiques, parce qu'ils n'admettaient pas des Juifs. Alors, dès qu'elle avait l'occasion, et je dois dire qu'en 1933, elle a dénoncé la politique d'Hitler, et c'était très tôt, en 1933. Mmh, il n'y en a pas tellement au Québec qui dénonçaient à ce moment-là. Mais juste un peu avant, elle a consacré une chronique au docteur Rabinovitch. C'était un interne qui avait fini ses études de médecine et qui voulait faire son internat à l'hôpital Notre-Dame. Et les médecins de l'hôpital Notre-Dame sont tombés en grève avec les médecins de deux autres hôpitaux pour protester contre le fait d'avoir un juif qui travaillait avec eux.
Ah oui.
Donc, elle y consacre une chronique et lui va démissionner. Et elle fait son éloge parce qu'il s'est sacrifié pour...
Parce qu'il y avait, au Québec, il faut le dire, hein, à cette époque, un antisémitisme décomplexé dans certains milieux peut-être conservateurs ou près de l'Église. À ce sujet, ben, tiens, un rappel dans nos archives radio, vous avez évoqué 1933, Pierre Paquette et Lisette Gervais lisant et se moquant un peu des grands titres de l'Action nationale, le journal catholique, en 1933, justement.
Le Bel Âge vous présente sa Gazette Parlée, édition du 5 novembre, 1933. Voici d'abord les manchettes.
Le Canada n'est pas un dépotoir mondial, déclare l'éditorialiste de l'Action catholique en prenant position sur l'immigration des Juifs chassés d'Allemagne.
Comment il s'appelait le journal?
L'Action...
Catholique.
Bah! Le journal poursuit, nous aurions bien tort de ramasser les individus dont les autres peuples se débarrassent comme indésirables. Hitler n'est pas aussi noir que veut bien le décrire une certaine presse américaine, peut-être.
Non, c'est un bon petit garçon, Hitler. Ah.
L'Action catholique commentait en ces termes la résolution d'un échevin de Montréal à l'effet d'interdire l'immigration au Canada des Juifs chassés d'Allemagne par les nazis.
Il ne faut pas oublier une chose, il faut peut-être préciser, n'est-ce pas, la décharge de l'Action catholique de Québec, que c'était en 1933.
Voilà, 1933, mais il y a quand même des voix qui s'élevaient, et parmi elles, Eva Circé-Côté. D'ailleurs, un de vos ouvrages a pour titre « Chronique d'Eva Circé-Côté, lumière sur la société québécoise ». Qu'est-ce que ces écrits nous révèlent justement sur le Québec d'antan?
Bien, c'est comme le revers. Si elle s'attaque à l'antisémitisme, c'est parce qu'il y a un antisémitisme. Si elle demande d'être plus que tolérant, mais d'accueillir les immigrants, de leur offrir une école en français et non pas une école basée sur la religion, c'est parce qu'on voit que la société offre d'abord des écoles fondées sur la religion plutôt que sur la langue, etc. Mmh. Alors, en la lisant, on voit le revers de ce qu'elle écrit.
Oui. On voit qu'il y avait des voix dissidentes. Parce que souvent,
oui,
on perçoit le Québec d'antan comme bon, la grande noirceur. Mais on se rend compte, en lisant ces textes-là, qui sont extrêmement actuels hein, et qui traitent de sujets très, très, très modernes. Puis même dans le ton, dans le style, c'est assez caustique. On se rend compte qu'il y avait des voix dissidentes à l'époque.
Absolument. Il faut le dire, en fait. Parce que le stéréotype du Québec arriéré, etc., et justement étroit d'esprit... Bon, c'est vrai qu'il y avait ça. Il y avait la... bon, la domination de l'Église, mais il y a toujours eu des gens qui ne sont pas conformés au modèle. Elle, c'en est une, mais n'était pas la seule. Disons que vous preniez un journal comme Le Pays, il y avait toute l'équipe, là. Elle n'était pas seule, mais elle était celle, en fait, qui a peut-être écrit le plus, dont on peut retrouver, justement, la voix.
Oui, comme s'il y avait le discours officiel, puis les voix qui s'expriment ailleurs, dans la vraie vie, à l'époque. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire de sa vie? Parce qu'elle a tellement écrit, puis là, on parle beaucoup de ses écrits politiques, mais elle a écrit des pièces de théâtre, elle a été critique littéraire. Qu'est-ce qu'on peut retenir, justement, sur sa vie, puis sur ses écrits, sur son œuvre, à Eva Cercé-Côté?
Oui. Son livre sur Papineau, là, tout le monde devrait le lire aujourd'hui. C'est vraiment, il n'y a rien de semblable. C'est une histoire de la société du Bas-Canada à l'époque de Papineau. Il y a un chapitre sur les protestants francophones, par exemple, sur les femmes à l'époque, etc.
Est-ce qu'elle est morte dans l'oubli?
Probablement. Écoutez, il y a eu...
Est-ce qu'on a fait mention de sa mort?
À peine. Mais si vous voulez, il y a eu une mention, et ce qui est très ironique, la seule nécrologie, c'est dans Le Devoir.
Ah oui.
Ah oui, mais on a...
Le journal dont elle s'est moquée.
Mais on a changé d'équipe. Là, on est rendu à Gérard Filion,
oui, on est
André Laurando, puis Pierre Laporte.
Okay? Oui, on n'est plus sous l'air d'Henri Bourassa, là, bien sûr. Oui. Puis on en dit quoi à ce moment-là?
Alors, on dit, je lis Madame Veuve Eva Cercé-Côté, fondatrice de la Bibliothèque municipale de Montréal, dont elle avait été la première bibliothécaire conjointement avec Hector Garneau. Elle est décédée à sa demeure, etc. Et là, on donne un peu, bon, qui étaient ses parents. Elle avait collaboré d'abord au débat, puis sous le pseudonyme de Colombine, à l'Avenir, au Monde illustré, à l'Avenir du Nord et aux Nationalistes. De concert avec Charles Guy, Arsène Bessette et autres jeunes écrivains, elle avait fondé le journal littéraire L'Étincelle. Mais j'aimerais corriger. D'abord, elle n'était pas bibliothécaire avec Hector Garneau. Hector Garneau est venu après. Oui. Vous savez, on lui enlève déjà ce qu'elle a. Les journaux qu'on cite, ce ne sont pas les journaux dans lesquels elle a beaucoup écrit. On enlève les journaux les plus progressistes. Le Monde ouvrier, qui est un journal syndical, dans lequel elle a écrit régulièrement pendant 20 ans. Le Pays, pendant lequel elle a écrit pendant 10 ans, on n'y mentionne pas. L'Étincelle, c'est un journal qui a duré quelques mois. On mentionne les hommes connus, comme Charles Guille. Moi, je trouve que c'est très éloquent, la nécrologie du Devoir. Et puis, c'est tout.
Oui. Bien, ça passe sous silence le rôle qu'elle a joué. Puis, la façon dont elle a défendu certaines de ses idées, je le rappelle, c'est quand même impressionnant. 1800 textes qu'elle a publiés comme ça. Et puis, bien, si on va en lire quelques-uns, c'est vraiment impressionnant dans le ton, le style, les propos qu'elle tient. Chronique d'Eva Cercé-Côté, Lumière sur la société québécoise. Et puis, Eva Cercé-Côté, Libre penseuse, deux ouvrages rédigés par mon invité, André Lévesque, historienne, directrice des archives Passe-Mémoire et auteur de ces deux ouvrages. Merci beaucoup d'avoir été là.
C'est moi qui vous remercie.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier. Là-dessus, bonne soirée. À demain. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.